Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission radiophonique de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio le chef d'orchestre et flûtiste Jean-Christophe Frisch pour la parution d'un tout nouveau disque dont le label Évidence. C'est un tout jeune label, je crois que vous nous en parlerez après, Jean-Christophe. Et ce disque s'intitule « D'or et de lumière » et en hébreu « Or Vézav ». Il y a d'ailleurs les deux titres sur la pochette. Et ce disque nous propose un voyage musical à travers les fêtes juives. Jean-Christophe Frisch, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Et merci d'être venu nous présenter ce disque, un très beau disque. Alors, vous dirigez un groupe qui s'appelle, je crois, Ensemble 1821. En plus, le 18 s'écrit avec des lettres romanes et le 21 en chiffre arabe. Et ensuite, le baroque nomade. C'est un nom un petit peu compliqué quand même tout ça. Je crois que c'est vous qui l'avez fondé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la signification de ce nom avant toute chose ?
Alors déjà, 1821, c'est pour dire qu'on joue la musique du 18e siècle, ou disons du passé en général, pour les auditeurs du 21e. Et on pense que c'est en connaissant le mieux possible la façon dont cette musique sonnait à l'époque qu'on la rend la plus vivante pour nos auditeurs, hic et nunc, maintenant et ici, que c'est ça qui va rendre la musique la plus directement accessible à tous les auditeurs. Et puis le baroque nomade, parce qu'on s'intéresse depuis des années aux échanges culturels qu'il y avait entre différentes musiques à l'époque. Et on se rend compte qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, et que des musiciens ont voyagé dans tous les sens. Et évidemment, dans le cas des musiques juives, c'est particulièrement évident, puisque les musiciens juifs circulaient dans toute l'Europe et au-delà.
Alors, je crois même que vous débordez parfois la période du XVIIIe siècle. Hein. On l'entendra dans ce disque, vous avez des pièces qui sont même antérieures, et parfois même vous allez au-delà. Et d'autant plus, dans le cadre des musiques juives, c'est parfois difficile à les dater, non ?
Alors, évidemment, les musiques qui sont de tradition orale, elles sont souvent arrivées avec une datation qui a voyagé en même temps que la musique et qui est souvent tout à fait fausse ou qui a été interprétée de différentes façons selon les endroits. Donc, ça n'a pas toujours un grand sens de dater précisément les musiques. Souvent, ces musiques-là ont été collectées au 19e siècle. Elles sont plus anciennes, mais plus anciennes comment ? Comment est-ce qu'elles ont voyagé ? On ne sait pas très bien. On peut faire des recoupements. Il y a des musicologues dont vous êtes qui ont fait ce genre de travail pour essayer de comprendre un petit peu précisément, mais il y a toujours une part spéculative, et en tant qu'interprète musicien, cette part spéculative, on l'aime beaucoup parce que ça, c'est notre champ de liberté.
Oui, c'est ça qui vous laisse la liberté d'interprétation. Il ne faut jamais oublier qu'en musique, il y a, même s'il y a, il y a de l'écriture dans notre tradition, mais il y a toujours, au-delà de l'écriture, l'interprétation, et l'interprétation, c'est cette liberté qu'on a par rapport à cette écriture, et c'est ça qui différencie évidemment les interprétations entre différents artistes. Alors, le baroque nomade, c'est quand même un ensemble de musique baroque que vous dirigez. On va en parler tout de suite après, mais je vous propose d'écouter dès à présent un premier extrait de votre CD, donc ce CD d'or et de lumière. Il s'agit d'une prière de Rosh Hashanah, bien connue, Avinu Malkenu, chantée sur un air traditionnel. Alors, vous me permettrez d'en donner la traduction pour ceux qui ne connaissent pas la prière, en tout au moins le début. Notre Père, notre Roi, Avinu Malkenu, pardonne-nous et réponds-nous, car ce que nous avons fait n'a pas été toujours réalisé avec grâce et charité. Sauve-nous. On est évidemment dans la période de Rosh Hashanah et des Yamim Noraim, juste avant Yom Kippour, donc on implore le pardon de Dieu. Et on va l'entendre dès à présent. Le début de Avinu Malkenu, extrait donc du CD d'Or et de Lumière, tout juste publié chez Evidence, et interprété ici par l'ensemble Le Baroque Nomade, 18e, 21e, je ne dirai pas le titre à chaque fois. Une très belle pièce interprétée ici notamment au chant par Cyril Gerstenhaber, que nous saluons d'ailleurs au passage. C'est amusant parce que cette pièce, on sent un côté espagnol, c'est peut-être le rythme qui donne ça. Et d'ailleurs, dans votre disque, il y a beaucoup de côté hispanisant. Est-ce un choix délibéré de votre part ?
Alors, c'est un choix, non, ce n'est pas un choix délibéré, c'est plutôt une conséquence de notre travail musicologique, c'est-à-dire qu'on a essayé vraiment de comparer toutes ces musiques ladino qui ont fait le tour de la Méditerranée à ce qu'il y avait en Espagne à l'époque supposée de leur création, et on trouve énormément de liens dans le type de modalité, dans les structures rythmiques. Donc on a appuyé ce trait qui nous semble correspondre à une réalité historique. C'est un petit peu cette façon qu'on a de travailler à la fois sur une musicologie qui est notre background, comment dire, après, de le rendre vivant pour les auditeurs. Les auditeurs n'ont pas à savoir qu'on a fait de la recherche musicologique pour trouver qu'est-ce qui se passait en Espagne au XVe siècle. Mais c'est nous, on s'appuie là-dessus pour construire notre interprétation.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'avez entendu, bon, bien sûr, cette pièce est accompagnée instrumentalement, ce qui n'est pas le cas, en fait, dans la tradition orale. Pendant les fêtes juives, on n'accompagne pas d'instruments. On n'entend pas, d'ailleurs, la voix de femme chanter, mais... Cyril chante tellement bien que c'est très très beau. Donc vous faites forcément des arrangements, comme vous le dites. Qu'est-ce qui préside à ces arrangements? Enfin, comment ça se passe? C'est vous qui arrangez? Vous parlez de décision musicologique, mais en fait, expliquez-nous un peu. Il y a des recherches, je suppose, quand même derrière tout ça.
Alors, d'abord, je réponds à votre première remarque. Il n'est pas forcément évident qu'une telle mélodie n'ait pas pu être chantée selon les époques, avec ou sans accompagnement. La chose peut être variable. Le fait qu'une femme le chante ou pas, c'est aussi très variable selon les lieux et les époques. Alors, pour ce qui est de l'arrangement, oui et non. L'arrangement ne consiste généralement pas chez nous à un travail d'écriture où quelqu'un, par exemple moi, dirait « toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça », mais plutôt un travail collectif de musiciens qui sont rompus à l'improvisation et qui le construisent communément ensemble pour créer quelque chose qui soit notre version, où on se sente légitime pour jouer de cette façon-là.
Alors, dans cette réinterprétation, je dirais, de ce répertoire du XVIIIe siècle et même parfois antérieur, notamment dans le répertoire judéo-espagnol, on a souvent deux approches, en fait. On a soit cette approche un peu baroquisante, avec cette improvisation qui s'appuie donc sur ces instruments quand même typiques de la musique baroque. On entend bien ici les guitares baroques, ces instruments à cordes, enfin, de l'Espagne. C'est quand même l'Espagne qui a donné beaucoup à travers la civilisation musulmane, donc de ces instruments à cordes qui, on en parlera, vont donner naissance même par la suite au violon et à d'autres instruments à cordes, nos instruments à cordes d'Occident. Et puis on a une approche plus parfois un peu arabo-andalouse, on va dire. Et c'est souvent deux approches qui ne se croisent pas, qui se regardent un petit peu comme ça en chien de faïence, mais qui sont intéressantes tous les deux. On est vraiment dans une interprétation de ce qui a pu exister. Ceci dit, je ne veux pas vous contredire, mais quand on lit les textes sur les voix de femmes à l'époque, c'est quand même peu probable qu'au XVIIIe siècle, les prières aient pu être interprétées par des femmes, parce qu'il y a vraiment le rabbinat était, la femme était absolument la séduction même, il fallait l'éviter. Pour le reste, pour les instruments, je vous suis totalement.
À la synagogue, c'est bien certain que les femmes ne chantaient pas, mais qui peut dire qu'elles n'ont pas chanté à la maison?
Ah, mais tout à fait, au contraire, elles chantaient à la maison, vous avez tout à fait raison. Alors, une question, on vient de parler du baroque. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas exactement la signification de ce mot, est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors je ne vais pas vous demander de faire un cours d'histoire, mais juste qu'est-ce que c'est que la musique baroque et en gros, à quelle époque elle a été en usage?
Alors, en gros, la musique baroque, c'est la musique du XVIIe et de la première moitié du XVIIIe siècle. Donc, c'est la musique de Lully, Bach, Vivaldi, Couperin, Rameau, etc., et qui est une musique qui a été très européenne, puisqu'il y a eu à partir de ce moment-là énormément d'échanges dans toute l'Europe. Donc on trouve des choses communes depuis la Scandinavie jusqu'au Portugal et d'Est en Ouest aussi. Il y a une sorte de style qui a des variantes locales, mais qui est très universel au sens de notre petit monde occidental.
Mmh. Et pour nos auditeurs, je rajouterais même, on a tendance à faire commencer ce courant baroque avec l'Orfeo de Monteverdi. C'est un petit peu une œuvre, enfin, en tout cas, dans les livres d'histoire de la musique, on trouve souvent. Je vous vois un peu sceptique.
Vous avez... De toute façon, la périodisation est toujours un petit peu artificielle. Donc,
tout à fait.
Voilà, en Italie, ça aurait pu commencer un petit peu plus tôt. Et puis, les musicologues se battent pour savoir s'il faut terminer avec l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach en 1750. Voilà, nous, on le voit dans un sens plus fluide que ça.
D'accord, tout à fait. Eh bien, écoutez, on va écouter justement une œuvre typique de cette période baroque. Il s'agit d'un extrait de Dio Clemenza e Rigore, une cantate donc écrite en 1733 pour la communauté juive de Casale Monferrato dans le nord de l'Italie, la région du Piémont exactement. On l'écoute et on en parle après. Extrait de la cantate Dio Clemenza e Rigore, un aria, un allegro, donc extrait donc toujours de ce CD d'or et de lumière, interprété ici au chant par Cyril Gerstenhaber, toujours accompagné évidemment par votre ensemble Jean-Christophe Rich, une très belle œuvre, assez étonnante d'ailleurs, parce que à part l'hébreu, le texte hébraïque, tout le reste, ça sonne vraiment comme dans la musique baroque de son temps. C'est, je crois, on avait dit 1733. Comment, d'abord, une œuvre d'une telle envergure a-t-elle pu être jouée dans une communauté juive Casale Monferrato, c'est pas si grand que ça comme communauté juive, c'est un peu étonnant quand même, non?
Alors, effectivement, c'est étonnant. C'est probablement la partie émergée de l'iceberg. Il est probable que d'autres œuvres comme ça ont été composées et perdues depuis l'époque parce que personne n'a songé à les conserver. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que même si c'est une œuvre d'aspect complètement baroque, il y a une attention portée à la langue hébraïque qui est extrêmement précise. La prosodie est totalement respectée. C'est fait vraiment par quelqu'un qui soit parlait la langue, soit l'avait suffisamment étudiée pour pouvoir vraiment écrire en fonction de la structure linguistique. Parce que le récitatif et l'air baroque en Italie à ce moment-là sont complètement basés sur la prosodie et la compréhension. Si on ne comprend pas, la musique ne sert à rien aux yeux des compositeurs de l'époque. Donc, il fallait que ça soit compris par des gens qui parlaient hébreu. Donc, la musique ne devait pas se mettre en travers du chemin de cette compréhension, mais plutôt magnifier l'expression des sentiments. Et on dit toujours que le baroque, c'est un surinvestissement des affects, des sentiments. Et on l'entend là pour ce texte tout à fait intéressant et particulier de cette œuvre.
Et là, on est en face d'une œuvre qui a été écrite, qui figure sur une partition. D'ailleurs, cette partition, vous m'avez dit hors micro que vous l'aviez trouvée chez nous, à l'Institut européen des musiques juives, et c'était édité par Israël Adler. Il faut citer son nom, c'était vraiment le pionnier, un grand professeur israélien qui a travaillé et a permis de faire revivre ce répertoire de musique juive baroque. Il a fait des recherches dans toute l'Europe, notamment en Italie, bien sûr, mais aussi en France, à Amsterdam. Et c'est lui qui a permis de faire revenir un peu quelques pièces comme ça, comme vous dites, les pièces peut-être immergées de l'iceberg. Il en reste malheureusement très peu, finalement, ce répertoire juif baroque. Il est assez étroit, assez restreint, quoi. Combien, 20, 30 pièces, peut-être, pas plus.
Alors, d'abord, Israël Adler, c'était un grand homme. Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai admiré sa science, sa patience, sa ténacité, son enthousiasme. Même très âgé, il était toujours aussi enthousiaste. Donc, c'est un homme qui m'a fasciné. D'autre part, effectivement, j'ai découvert cette partition grâce à l'Institut européen des musiques juives, mais pas seulement celle-là, il y en a plein d'autres qui sont dans le disque que j'ai pu trouver grâce à votre travail extrêmement précieux. Mais oui, sûrement, il y a effectivement 20 ou 30 œuvres baroques écrites, il y en a sûrement beaucoup, beaucoup qui sont perdues. Il se peut qu'on en trouve encore d'autres au hasard des recherches dans les bibliothèques et dans les greniers. Sur ces 20 ou 30, elles ne sont pas toutes très bonnes. Comme c'est toujours le cas pour la musique, hein. Les œuvres chrétiennes ne sont pas non plus toujours très bonnes. Mais ce petit recueil, ces deux petits oratorios ou cantates de Casale Monferrato sont tous les deux très intéressants, très habilement écrits. On n'a pas le nom du compositeur, il est probable qu'il était chrétien. Et il est tout à fait possible qu'il n'ait pas voulu signer pour qu'on ne sache pas trop qu'il avait collaboré avec les Juifs, parce que ce n'était pas forcément bien vu pour le reste de sa carrière.
Mais à l'époque, à l'exception notable de Salomoner aussi auparavant, qui a écrit donc les 33 psaumes à Sherli Shlomo, enfin les psaumes de selon Salomon, qui est compositeur juif, Salomon aussi, beaucoup de compositeurs qui écrivaient pour les communautés juives, enfin les quelques compositeurs, souvent n'étaient pas juifs eux-mêmes, c'était des compositeurs chrétiens. Et là, on pense à un compositeur en particulier, vous me disiez pour cette pièce, c'est Giuseppe Cristiano, donc Cristiano Lidartis, le même qui a écrit l'oratorio d'Esther, je crois.
Alors, je dirais qu'il y a de fortes chances que ces œuvres de Casale Monferrato soient de Lidarti, effectivement. On le reconnaît par le style, parce que ça ressemble beaucoup à l'œuvre qu'il a signée, donc cet oratorio incroyable d'Esther, dont on a retenu un air pour ce disque. Et en termes de date, ça correspond aussi. Il y a sans doute peu de compositeurs chrétiens qui ont appris aussi bien l'hébreu pour pouvoir écrire cette langue-là. Donc c'est une présomption importante. On aura certainement beaucoup de mal à le prouver définitivement.
Tout à fait. Alors, à noter juste pour l'anecdote que le manuscrit de cet oratorio a été miraculeusement retrouvé à Moscou au XXe siècle dans la collection Ginsburg. Ginsburg, c'était un grand mécène, collecteur, enfin, qui a permis d'entreprendre des collectes d'archives. Et donc, on a retrouvé ce manuscrit dans cette collection. On va avancer parce que votre CD comporte énormément de morceaux, tous autant passionnants les uns que les autres. Et il y a une pièce musicale qui m'a frappé dans ce disque. C'est une danse juive. C'est écrit en anglais d'ailleurs, enfin l'ancien The Jewish Dance. Une danse juive qui daterait de 1595, donc bien antérieurement à la période baroque. Alors, première question, où avez-vous déniché cette perle? Parce que je ne la connaissais pas du tout. Et pourriez-vous nous en décrire rapidement les caractéristiques?
Alors, cette Jew's Dance, elle figure dans un recueil de pièces instrumentales anglais de donc la toute fin du XVIe siècle, et elle a une caractéristique tout à fait étonnante, c'est qu'elle est écrite sur une basse obstinée de quatre notes, qui s'appelle la Bergamasca, donc la Bergamasque, et qui est une danse populaire du nord de l'Italie, de la région de Bergame. Et ces quatre notes se répètent sans arrêt, et manifestement cette pièce est une sorte de transcription d'une improvisation collective sur cette basse qui se répète tout le temps, et les musiciens à l'époque étaient habitués à improviser sur cette structure-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit appelée danse des Juifs en Angleterre, et ça c'est certainement lié au fait que de grands luthiers et musiciens du nord de l'Italie, qui était précédemment arrivé d'Espagne au moment de l'expulsion à la fin du XVe siècle, et qui avait développé la lutherie dans le nord de l'Italie grâce à certaines techniques empruntées aux Arabes qu'ils avaient transportées avec eux. Ces luthiers sont partis en Angleterre et ont développé la construction des viols de gambe, très grande école de viols de gambe à partir du XVIe siècle en Angleterre. Et ces luthiers juifs étaient... réputés pour les meilleurs luthiers possibles dans toute l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est ce voyage qui a été fait. Donc, ils sont partis d'Espagne avec des techniques d'origine arabe qu'ils ont croisées avec d'autres techniques de l'Italie du Nord et qui ont donné naissance au violon et au viol de gambe, avec en particulier l'utilisation du chevalet courbe. Donc ça devient un petit peu technique, mais le chevalet courbe, ça permet, quand on joue avec un instrument à archet, de ne pas frotter sur toutes les cordes en même temps. C'est très malin, mais on n'y avait pas pensé avant en Italie, apparemment. C'est une technique clairement arabe. Et ils ont développé donc, avec cette nouvelle idée et la qualité des artisans de l'Italie du Nord, ces nouveaux instruments qui sont devenus les viols de gambe et les violons. Puis ils les ont emportés en Angleterre et, peut-être de façon un petit peu ironique, on a composé pour eux cette musique, cette danse des Juifs qui est en fait une danse d'Italie du Nord.
Donc ce serait la danse des luthiers juifs, peut-être plus que la danse qui était jouée dans les mariages juifs ou quelque chose comme ça, à la limite.
Voilà, quelque chose comme ça. On n'en sait pas plus, On n'en sait pas plus. Ce qu'on peut dire, c'est que certains de ces luthiers, comme Ferrabosco ou Lupon, si on traduisait leur nom en allemand, Monsieur Wolf ou Monsieur Eisenwald, on se dirait, tiens, ceux-là, leur nom est très connoté, alors on les appelle Ferrabosco et on ne les reconnaît pas comme juifs, mais à l'époque, ils étaient clairement identifiés.
Et on voit toujours ici le rôle des Juifs comme médiateurs souvent d'une civilisation à l'autre. On parle souvent qu'ils ont été, notamment dans l'Espagne, un peu médiateurs entre les chrétiens et les Arabes. Et là, on retrouve un peu ce rôle de passeurs, en fait, puisqu'ils ont voyagé et qu'ils ont emporté ce qu'ils ont connu, les techniques qu'ils ont apprises, notamment auprès donc, des luthiers arabes, auprès donc, des luthiers chrétiens. Et c'est toujours enrichissant pour les civilisations d'avoir des gens qui sont des passeurs, en fait.
Alors, c'est sûr que les Juifs ont eu un rôle de transmetteur d'informations musicales, philosophiques, etc. Et ça, pour une raison qui semble évidente, c'est qu'ils avaient une langue commune dans le monde entier. Un Juif d'Amsterdam pouvait communiquer avec un Juif de Bagdad parce qu'il pouvait parler hébreu, avec des accents différents, sûrement, etc. Mais ils pouvaient se comprendre. Et donc, ils ont eu un rôle de ferment philosophique, idéologique, artistique très important dans toute l'Europe baroque.
Très bien, et bien nous allons écouter donc cette danse des Juifs.
Thank you.
Le début de la danse des Juifs, The Jewish Dance, écrite vers environ 1595, donc c'est pas tout jeune, et à l'occasion de la fête de Hoshana Rabba. Donc extrait toujours du CD d'Or et de Lumière, votre CD d'ailleurs qui parcourt les fêtes juives, puisque vous l'avez construit un peu autour des fêtes juives, et vous sélectionnez à chaque fois 4, 5 morceaux parmi les principales fêtes juives, notamment, on a parlé de Hoshana Rabba, qui est le dernier jour de Sukkot, mais également Hanouka ou Purim, où on pouvait, là, pour le coup, jouer de la musique, c'était même encouragé, même par les autorités rabbiniques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, votre CD comporte des pièces d'origine espagnole, enfin judéo-espagnole même. Alors, des pièces également populaires, pas que des pièces savantes, des pièces traditionnelles. On va entendre à présent une mélodie judéo-espagnole bien connue de tous les locuteurs judéo-espagnols, Yo me enamoré. Que dit cette chanson? C'est tout simplement « Je suis tombé amoureux d'un air, de l'air d'une femme très belle, belle de mon cœur, tralalala. Je suis tombé amoureux de la nuit, le clair de lune m'a ensorcelé, si cela avait été de jour, l'amour ne m'aurait pas attaché. » C'est un très très joli texte, et on entend de suite cette chanson interprétée ici toujours par le baroque nomade. Yo me enamoré, chanté à Hoshana Rabba, donc extrait toujours du CD d'Or et de Lumière, interprété par l'ensemble, donc le baroque nomade, donc 1821. Et donc comme on le disait, vous suivez donc les fêtes, et là c'est un chant qui est donc chanté lors de Hoshana Rabba, mais également on a dit tout à l'heure que certains chants sont destinés à la fête de Hanouka ou Purim. Ces fêtes qui sont des fêtes joyeuses, ça arrive dans l'année juive comme ça, des fêtes joyeuses, et donc pour lesquelles on a le droit, même le devoir de s'amuser, de faire de la musique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, pour le coup, les femmes chantaient beaucoup dans les maisons, notamment ces chants donc en judéo-espagnol. Et dans votre disque, il y a un autre chant qui s'appelle « Para que quiero más vivir », qui est un chant de Hanouka, qui est en fait plus exactement une coplace. Alors, si vous me permettez juste de dire un mot ce que c'est que sur ce qu'est une coplace, Alors déjà, la copla, c'est de tradition plus récente que les romances. Les romances, leurs textes, en fait, on les identifie par leurs textes qui remontent à l'époque médiévale. C'est comme ça qu'on les identifie surtout. Les coplas se caractérisent, quant à elles, par un contenu à proprement parler juif, puisqu'il est fait référence aux fêtes juives, à des épisodes de la Bible ou encore à des événements importants de l'histoire du judaïsme. Et aussi, les coplas, contrairement aux autres genres judéo-espagnols, ne sont pas toujours anonymes. En fait, parfois, le nom du poète apparaît souvent sous la forme d'un acrostiche. Ça peut être la première lettre de chaque vers ou de chaque couplet, ou la dernière lettre parfois, et on a parfois comme ça le nom des auteurs. Et elles ont été publiées en recueil dès le XVIIIe siècle et jusqu'au tout début du XXe siècle. Alors la coplace que vous avez choisi d'interpréter est assez particulière. Alors c'est en fait une coplace qui est sur un rythme, je crois, de 48 ans. C'est assez étonnant et elle est précédée d'ailleurs un morceau qu'on n'aura pas le temps d'entendre, mais qui est un pêcherev, donc qui vient de la sphère, il me semble, plus iranienne ou quelque part enfin en Asie centrale, non?
Alors, quand les Juifs sont sortis d'Espagne à la fin du XVe siècle, ils se sont répandus tout autour du bassin méditerranéen et au-delà, et ils ont été accueillis dans certaines grandes villes de l'Empire ottoman, Constantinople, Smyrne, etc. Et évidemment, les musiques ont été croisées, contaminées, fécondées, on pourrait dire, par la musique ottomane. Et dans cette structure de cette copla dont vous parlez à l'instant, on a pu identifier d'une part une échelle qui correspond à un makam ottoman caractéristique et d'autre part un rythme à 48 ans qui est aussi typique de ce développement de la science du rythme dans l'Empire ottoman et on a superposé l'un à l'autre. On en a essayé 30 avant de trouver le bon, enfin on les a essayés sur le papier bien sûr, hein, mais il a fallu du temps pour comprendre que cette mélodie se calait sur ce rythme à 48 ans.
Alors on l'écoute de suite, donc nous écoutons cette para que quiero más vivir. Un extrait donc de ce chant judéo-espagnol, Para que quiero más vivir, donc chant de Hanouka. Et donc les 48 ans, j'espère que tous nos auditeurs les ont comptés. C'était presque évident. On était dans le studio à compter ensemble avec Jean-Christophe Frisch. Et j'ai parlé tout à l'heure des coplas. Alors les coplas, c'est notre morceau qui arrive dès maintenant. Donc il s'agit d'une coplas de Pourim. Donc comme je l'ai dit, la coplas traite d'un sujet à proprement parler juif. Et il s'agit évidemment moment de la fête de Pourim. D'ailleurs, les paroles du refrain sont les suivantes. « Vive toi, vive moi, vive tous les Juifs, vive la reine Esther qui nous a donné tant de joie. » Et les paroles sont très drôles. D'ailleurs, je vous encourage à vous procurer bien sûr le disque, puisque le livret est très fourni et vous y trouverez toutes les indications et les paroles des différents chants. Dans cet air, d'ailleurs, vous indiquez que vous avez arrangé donc la musique dans le style des villancicos espagnols du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce que c'est qu'un villancicos ?
Alors, les villancicos sont des chansons paraliturgiques chrétiennes, chantées de façon très populaire, non pas dans les églises, mais autour, lors de processions ou d'événements comme ça. Et elles ont des rythmes tout à fait caractéristiques, avec des dissonances à certains endroits tout à fait précis, et une alternance de deux temps et de trois temps qui est typiquement espagnole. Et quand on a vu ces coplas de Pourim, on s'est dit, mais ça, c'est caractéristique de la musique espagnole de cette époque-là. Et donc, on a très facilement reconstitué, d'après des modèles, les parties manquantes.
Donc on l'écoute tout de suite, cette coplas de Pourim.
Viva tui, viva io, viva todos los judíos, viva la reina Esther, que tanto placer nos dio.
Coplas de Pourim, dans la tradition typiquement espagnole, donc interprété toujours par l'ensemble 1821, le baroque nomade, dirigé par Jean-Christophe Rich, avec la belle voix de Cyril Gersenhaber, publié chez Evidence, c'est un jeune label, je crois, il me semble. Et est-ce que vous pourriez nous donner également le nom des musiciens qui vous entourent ?
Alors Evidence, c'est un label qui a quelques années maintenant, mais qui fait un démarrage en flèche absolument impressionnant. Et on travaille très bien avec eux, on est vraiment contente de cette collaboration. Et donc, voilà, les musiciens, il y a Andreas Linos, notre violiste grec qui joue la viole de gambe, Pierre Rigopoulos, percussionniste d'origine juive tunisienne, mais qui est tombé dans la marmite de la percussion iranienne et puis toutes sortes de choses, qui est un homme à cinq ou six mains, et je ne sais pas comment il fait pour jouer autant d'instruments avec une telle perfection et délicatesse. Rémi Cassaigne, qui joue toutes sortes de luths et autres guitares. Dans le morceau qu'on vient d'entendre, il joue de la viola da terra, qui est un instrument d'origine portugaise des Açores, mais qui est aussi typiquement hispanique des époques anciennes. Romain Falik, aussi luthiste, théorbiste et guitariste, voilà, et grand improvisateur. Qui j'oublie, Sherman Plessner, violoniste qu'on a entendu dans ce morceau à l'instant aussi, qui improvise au violon pendant qu'on chante. Je suis donc évidemment aux flûtes. Qui j'oublie, Isabelle Schmitt, chanteuse aussi, qu'on a entendu dans le duo il y a quelques minutes. J'ai l'impression que j'en ai oublié encore.
Sirène, on en a parlé, Gersenada. Voilà. Mais ça fait un sacré monde autour de vous, hein, le baroque nomade. Et alors, pourriez-vous nous dire où est-ce qu'on peut se procurer votre disque? C'est important pour nos auditeurs.
Alors, d'abord sur tous les sites de diffusion de disques. On peut l'acheter en forme physique ou on peut le télécharger. Ou, voilà, tous les sites, en particulier le site d'Evidence, Evidence Classique. On est très facile à trouver sur Internet. Et puis, s'il reste encore quelques disquaires, logiquement, il pourrait avoir ce disque.
Alors, on va écouter un dernier extrait de ce disque. Il s'agit d'une œuvre un peu étrange, en fait, dans ce disque. J'ai vu Sonata 3 d'un compositeur italien du XVIIe siècle, Baggio Marini. Alors, je me suis demandé pourquoi avoir choisi cette pièce et en quoi se rattache-t-elle au judaïsme.
Et puis, vous l'avez écouté, vous avez tout de suite compris.
Alors, j'ai pas tout de suite compris parce que c'est assez subtil. Il faut peut-être l'expliquer à nos auditeurs.
Alors, vous allez reconnaître que, après la quatrième ou cinquième mesure, on entend une mélodie qui se développe, qui s'appelle la Mantovana ou Fuji Fuji, qui est une mélodie qui a été documentée à partir de la fin du XVe siècle en Italie, qui a circulé dans toute l'Europe et qui, parmi ses nombreux avatars, est devenue la Hatikva.
Très bien, alors on va écouter la Hatikva baroque italienne tout de suite. Alors effectivement, quand on est prévenu, on entend effectivement le début, etc. Donc c'est bien l'air de l'Hatikva, mais alors cet air est toujours très, l'origine de cet air est quand même très controversée. Vous savez, il y a eu plein d'études faites sur le sujet, des films, des documentaires. Certains le font, lui donnent une origine roumaine. C'est une thèse d'ailleurs qui ne fait pas l'unanimité, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Alors en tout cas, de mon point de vue de musicologue baroque, c'est vraisemblable que l'origine roumaine soit fiable, puisqu'on sait même, on connaît même assez bien la chanson en roumain d'où ça aurait été emprunté. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'au XVIIe siècle, il y avait énormément de contacts musicaux entre la Transylvanie, la Roumanie, et l'Italie du Nord, d'où vient cette mélodie. Il y avait des échanges musicaux très, très importants, et il est probable que cette mélodie, sans doute d'origine italienne, qui s'appelle donc la Mantovana. Donc
elle venait de Mantoue, c'est ça?
Comment?
C'est la même racine que Mantoue, Mantovana?
Mantoue, exactement. Elle venait de Mantoue. C'est une sorte d'hymne national ou citadin de Mantoue. Elle est arrivée en Italie et elle s'est développée dans différentes cultures populaires chrétiennes, de différentes communautés chrétiennes et juives. D'ailleurs, en Transylvanie à l'époque, les juifs avaient un statut particulier puisqu'il y avait un édit de tolérance, donc qui leur donnait un certain confort.
Alors justement, il y avait beaucoup de juifs à Mantoue, la communauté juive de Mantoue était florissante, et il est possible, donc, comme vous le dites, que les juifs de Mantoue, par le biais toujours de ces voyageurs, de ces émissaires, soient allés en Roumanie, et par ce biais-là, que cette mélodie se soit implantée en Roumanie, et plus tard, et donné naissance à la Tikva. Mais on est toujours dans des hypothèses.
De toute façon, forcément.
Alors justement, vous nous parlez de la Roumanie, et je crois que vous avez un projet avec une région en particulier de la Roumanie, c'est la Transylvanie, je crois.
Alors, on a effectivement commencé à travailler l'été dernier sur un nouveau projet de musique juive. C'est ces musiques conservées par certaines communautés en Transylvanie jusqu'à maintenant. Et on travaille avec des musiciens roumains, hongrois, de là-bas sur ce répertoire. On a commencé à développer ce programme l'été dernier. On va continuer dès qu'on a l'occasion. On espère trouver des points de chute, des lieux de concert pour ce nouveau programme avec nos amis roumains sur ce répertoire passionnant de musique juive de Transylvanie.
Alors, comme vous m'en aviez dit un mot avant, je vous ai apporté un petit cadeau à mon tour. Il s'agit d'une danse juive qui vient de Transylvanie. C'est extrait d'un très beau CD qui s'appelle Musikash Maramaros, The Last Jewish Music of Transylvania, donc les dernières musiques juives de Transylvanie, enregistrées en 1993. On va l'écouter de suite. Venons d'entendre une danse racidique en fait de mariage, extrait donc du CD Musikash Maramaros, The Last Jewish Music of Transylvania, le prochain projet, j'en suis sûr, de Jean-Christophe Rich et de l'ensemble des 1821, le baroque nomade. Vous avez, je le signale aux auditeurs, déjà réalisé de nombreux disques, mais deux au moins qui étaient consacrés aux musiques juives, donc un sur les psaumes de David et notamment Benedetto Marcello, et l'autre tout à fait original qui s'appelle Schubert Klezmer, une rencontre entre Schubert et Salomon Sulzer dans un café viennois, et où s'échangent les musiques entre musique juive et musique viennoise de l'époque de Schubert. C'est passionnant. Allez aussi vous procurer ce disque, en plus de ce disque que vous venez d'entendre, bien sûr, dont je rappelle le titre. Il s'agit donc d'Or et de Lumière, Or Vezahav, par l'ensemble 1821, le baroque nomade, paru chez Évidence. Jean-Christophe Rich, merci infiniment pour votre présence dans ce studio.
Merci Hervé, c'était un plaisir.
Et ben, partagez, chères auditrices, chers auditeurs, donc notre émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org, ainsi bien sûr que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm sugar for my baby and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby and my baby's crazy for me. Things were mine.